Tous les musées ont une atmosphère qui leur est propre et qui se nourrit du temps qui passe, des œuvres qu'on y expose, de l'âme du lieu. Ici, en plein cœur du bassin minier, le Louvre-Lens se découvre petit à petit, presque doucement, à mesure qu'on s'en approche à travers le parc qui l'entoure, en passant par une des 11 portes qui s'ouvrent sur la ville. Et plus on s'avance près de lui, plus l'évidence se fait. La première œuvre du musée, c'est justement ce parc qui vient se refléter tout au long des longues parois de métal, de verre, d'acier. Quand le ciel est gris, ce qui peut arriver parfois dans les Hauts-de-France, c'est ce qu'on dit, l'impression est saisissante avec cette longue forme allongée qui semble flotter entre deux eaux, entre la terre et le ciel, dans les reflets du jeu de miroir qui se joue à chaque minute entre le parc et son musée. Et quand on connaît l'histoire du lieu, il faut parfois se frotter les yeux pour se souvenir de ce qu'il y avait ici avant. Un carreau de mine d'abord, celui de l'ancienne fosse numéro 9, dont la longue histoire s'étend sur des décennies. Ici, sous nos pieds, le long des chemins, où on avance aujourd'hui au milieu des arbres, des milliers, des dizaines de milliers de gueules noires ont défilé pour s'enfoncer à plusieurs centaines de mètres sous terre au temps du charbon. Puis, il y a eu l'après, le temps de la friche industrielle, envahie par les herbes folles, par une végétation un peu fragile, un peu maigre, mais vivace. Et le miracle s'est produit. Sur les 20 hectares qui entourent le musée, en dessinant une courbe tout en longueur, le Louvre-Lens s'est installé avec son parc, en même temps que son parc, dessiné en même temps que lui, pour lui servir de cadre, d'écrin. Le vert s'ajoute au noir, sans jamais donner l'impression d'oublier le passé du lieu. Les arbres ont grandi, les arbustes et les plantes vivaces ont poussé. La vie s'est mise à y suivre son cours, derrière chaque talus, chaque buisson. Les promeneurs y ont trouvé leur marque, et on serait presque tenté de dire que la ville a en quelque sorte guéri de la cicatrice laissée par la fin de l'exploitation minière. Aujourd'hui, le Louvre-Lens ne saurait s'imaginer sans ce parc qui l'entoure, qui a toujours été au centre de ce projet hors du commun, sorti de terre voici 10 ans. Le musée, c'est le parc, c'est le musée. Et nous allons aujourd'hui revenir sur ces 20 hectares qui font aujourd'hui partie de l'âme du Louvre-Lens pour évoquer son passé, son présent et son avenir. Le décor est planté, c'est le cas de le dire. Et pour évoquer ce lieu pas comme les autres, je me tourne à présent vers les deux invités qui nous font l'honneur d'être à ce micro aujourd'hui. Bonjour et bienvenue mesdames, merci de nous avoir rejoints. Catherine Mosbach, d'abord bonjour, vous êtes architecte paysagiste et c'est vous qui avez dessiné, imaginé, conçu le parc qui entoure le Louvre-Lens, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça.
Parfait.
Bonjour, Bonjour.
Marie Lavandier ensuite, on ne vous présente plus mais je vais quand même le faire, vous êtes la directrice du Louvre-Lens depuis 2016. Vous avez la chance de travailler tous les jours au milieu des arbres dans le bâtiment administratif qui a été construit un peu à l'écart du musée proprement dit, au cœur de ce fameux parc que vous connaissez comme votre poche j'imagine.
Oui tout à fait, j'ai aussi la chance d'y venir à pied chaque matin, et donc chaque matin je traverse ce parc, et j'ai tendance à dire qu'au-delà d'un musée-parc, finalement, le musée du Louvre-Lens, c'est un parc-musée pour moi.
Avant d'évoquer le rôle du parc aujourd'hui dans la vie du musée, de ses visiteurs, je voudrais que nous revenions dans un premier temps sur l'histoire de ce lieu, sur sa naissance, et sur le lien qui l'unit depuis le début au territoire et au bâtiment lui-même. Catherine Mosbach, c'est vous qui avez dessiné, je disais, ce parc en lien étroit avec l'agence d'architectes Sanaa, qui avait remporté le concours lancé en 2005 pour la construction du Louvre-Lens. À partir de quand avez-vous été impliqué dans ce projet et comment s'est déroulé le dialogue avec Sanaa? Quel était, si on peut dire ainsi, le cahier des charges qui guidait votre travail?
Je dois dire, si on remonte en amont du concours, que ce lieu est cette expérience, on va dire, ouverte, puisque est une expérience unique, je dirais en France et en international, puisque en amont du concours architecture-paysage, il y a eu un concours sur les villes qui postulaient un peu comme les Jeux Olympiques pour un lieu. Et ce lieu a été choisi justement parce qu'il y avait la possibilité de faire un musée dans un parc, avec un parc, par rapport aux autres villes qui étaient peut-être tout aussi pertinentes. C'est le premier niveau, puisqu'il faut en effet du courage pour le maître d'ouvrage, c'est comme ça qu'on les appelle, pour engager ce type d'expérience à cette échelle. Et donc, il était demandé qu'il y ait un paysagiste dans l'équipe du concours, puisque cette dimension du parc à l'époque était à 25 hectares. Et nous avons donc constitué l'équipe. J'étais à l'époque exposé au MoMA à New York, le travail que j'avais fait à Bordeaux faisait la couverture du catalogue de cette exposition internationale. Sana au Japon, Imre Kölber à New York cherchaient un paysagiste français. Ils se sont tournés vers le président de MoMA et Il a dit, bah, écoutez, elle fait la couverture, peut-être c'est pas mal. Donc cette équipe a été organisée sans que personne ne connaisse le travail de l'autre. Bien sûr, Sana a consulté le catalogue de l'exposition de Montmartre pour comprendre de quoi était fait cette paysagiste et ce qu'elle faisait. Et donc, nous n'avions que 3 mois pour faire à la fois un bâtiment, un parc et une vision sur l'urbanisme, ce qui est très très court. Nous étions la seule Française. Nous avons nourri l'équipe pendant 1 mois sur toute la connaissance des territoires à grande échelle. Nous avons mis 1 mois à attendre un premier esquisse de bâtiment, donc nous étions un peu désespérés. Mais il est venu 15 jours avant la fin, donc c'était un bijou qui flottait dans une carrière. 15 jours avant la fin du concours, le projet a changé pour s'affiner et s'articuler à la vision du territoire que nous proposions, qui était cette vision des cavaliers à grande échelle, qui nourrissait le parc et en même temps le parc qui nourrissait les territoires.
J'ai une question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez découvert le site en vrai? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en découvrant le lieu? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux?
C'est très très poétique. Et justement, au lancement du chantier, c'est cette clairière, ce trou de lumière avec les lisières. Donc à la fois, c'était un lieu flottant, hors des articulations, et en même temps, donc une très grande poésie, puisque les arbres existaient, les lisières existaient, donc la poésie était là. Et en même temps, évidemment, l'enjeu était de l'articuler. Il n'était pas question de faire une île flottante, indifférente à tout le reste. Et il faut dire que nous étions 5 équipes, et nous étions la seule équipe où l'articulation architecture-paysage était efficiente, où le parc n'était pas simplement une plus-value par rapport à un bâtiment monument. C'était d'ailleurs quelque chose de délicat par rapport au président de la région, qui aurait préféré quelque chose de plus visible, de plus expressionniste, de plus monumental, à l'image de Bilbao. Donc nous étions à l'opposé inverse, qui est d'ailleurs, je le redis, c'était un choix très courageux du maître d'ouvrage, associer le Louvre Paris et bien évidemment le Louvre Région.
Quelles ont été vos sources? Vous l'avez dit, hein, c'est un travail en symbiose avec l'agence d'architectes, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais quelles ont été vos sources d'inspiration au moment d'imaginer les premières esquisses?
Oui, vous avez raison, le mot symbiose n'est pas trop fort parce que c'est trop rare. Je trouve que c'est vraiment trop rare et c'est une expérience vraiment très fertile. Mes sources, je suis biologiste à la base. Le terrain était pauvre, hein. Vous savez que le terril, c'est les rebuts de ce qui n'est pas exploité économiquement. J'ai eu des entretiens avec des botanistes, des chercheurs, et on sait que quand un terrain, comme après une résurgence volcanique, quand il n'y a pas de ressources de nutriments pour les plantes, les premiers éléments qui travaillent, c'est les cyanobactéries, qui investissent le minéral, qui le transforment, qui transforment l'oxygène et qui permettent les premières résurgences du vivant. Ce sujet est un sujet d'actualité, comme vous le savez. Et donc, nous avons découvert par hasard un livre sur les mousses en international avec de très belles photographies. Nous avons vu le panel très très large de cette dynamique de mousse, qui est le premier signe du vivant sur la Terre. Hein. Sur Mars, sur la Lune, il n'y a pas de mousse. Et donc, nous nous sommes inspirés de cette dynamique de prolifération et de multiplication des mousses, associée à tous les dessins que nous avions trouvés du stockage des mines. C'est-à-dire, nous avons associé la biologie à ce que nous avions trouvé comme trace du travail du terril, enfin de l'activité minière. Les deux associés ont fait ce dessin. On nous dit souvent que c'est inspiré du style japonais, mais pas du tout. C'est très français, enfin pardon, c'est très local.
Alors justement, ça, on se pose parfois la question quand on entre pour la première fois sur le site, qu'on apprend son histoire. On a du mal à se rappeler qu'il y avait là un site industriel avec ses voies ferrées, ses puits, son chevalement. Est-ce qu'il reste quelque chose physiquement du passé du parc? Et sinon, comment est-ce que vous en avez gardé la trace, la mémoire?
Au début, avec Sana, nous voulions que le bâtiment flotte et que la poésie du lieu soit celle de la lumière au milieu d'une lisière. Et bien sûr, nous avons une chance. Enfin, vous disiez que la friche, c'était quelque chose de pauvre, mais pas du tout. C'est un cadeau incroyable pour le début d'un parc, parce qu'il y a quelque chose. Quand vous créez un parc de toutes pièces dans un lieu, il n'y a rien. On est dans un climat continental. Il faut attendre très longtemps pour que les arbres s'installent et prennent de la dimension. Donc nous avions les bouleaux, nous avions toutes ces lisières, nous avions les acacias qui ont été plantés sur les cavaliers, nous avions toute la lisière sud qui était très riche spontanément. C'est-à-dire quand on laisse un lieu au repos, où qu'il soit, le vivant travaille et produit. Et, enfin, c'est comme ça que l'humain est arrivé sur Terre. D'ailleurs, enfin, je vais faire de gros raccourcis, nous n'aurions pas assez le temps pour développer, mais nous avions déjà ce cadeau du bois pionnier, ce qu'on appelait le bois pionnier. Et ben, il est là, et heureusement qu'il est là, c'est ce qui prépare la richesse du sol de demain pour accueillir des hêtres, des chênes. Ça met très longtemps une forêt pour s'installer en climat continental.
Marie Lavandier, vous avez découvert, je crois, le parc plus tard. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la première fois ?
Je l'ai vu pour la première fois pendant le chantier. Parce que dans d'autres fonctions, pour le ministère de la Culture à l'époque, je venais vérifier que ce musée allait bien respecter toutes les conditions imposées pour le respect des collections nationales qu'il allait abriter. Et le parc était à l'époque complètement en chantier, quelques mois avant l'ouverture. J'en ai pas le souvenir à ce moment-là. J'en ai le souvenir le jour de l'inauguration. Il pleuvait à Sceaux, n'est-ce pas, Catherine ? C'était... Et tout le monde faisait la queue dehors. Il y avait des milliers de parapluies qui s'effilaient dans cet étrange paysage urbain. Le parc était, il faut quand même s'en rappeler, autour du musée ce jour-là, assez boueux, assez bourbeux. Beaucoup disent un tas de boue, mais ce n'est pas un tas puisqu'il était plat. C'était vraiment, enfin, c'était assez incroyable d'y repenser aujourd'hui. Et j'avais été très séduite par ce qui avait été fait sur le parvis, avec ces plantations de sédum, je pense, et de petites graminées qui soulignaient les ronds qui marquent ce parvis de béton. C'est la première fois que là j'ai vu ce parc et son potentiel poétique. Il faut rappeler que c'était évidemment le 4 décembre, hein, donc c'était l'hiver.
Vous l'avez dit tout à l'heure, Catherine Mosbach, le parc se structure autour d'espaces très différents les uns des autres. Comment est-ce que l'articulation s'est petit à petit, vous est petit à petit apparue ?
C'est-à-dire, traditionnellement, d'abord c'est un projet ambitieux, je le redis, courageux, je le redis, parce que très abstrait, et Sana et moi-même, je le redis, c'est important parce que... Quand on parle parc, et le maître d'ouvrage et les habitants attendent quelque chose de plus habituel. Donc, le budget est souvent absorbé par le monument, le bâtiment, quoi qu'on dise. Et donc, il fallait arbitrer entre du spontané, du sauvage, donc quelque chose de résurgent, et quelque chose de très léché. Et donc, on a accordé à peu près 10% de nos efforts du dessin sur du très soigné, mais très très soigné. Et c'était très important pour moi qu'il y ait le contraste entre le très maîtrisé, genre occidental, et le très spontané, genre je ne sais quoi, puisque aujourd'hui ça n'a plus le même sens. Et du coup, il fallait aussi que donc, cette mitoyenneté entre des espaces d'appropriation est ouverte à des expressions libres, comme la terrasse des arts, la grève des terrils, donc des lieux, on va dire, plus d'accueil, et des lieux plus spontanés, comme la prairie sauvage, le bois pionnier, etc. Donc ça s'est équilibré de cette manière-là, et aussi... Le bâtiment était au centre, il fallait qu'il y ait aussi des appels, enfin des lieux à l'est, plein est, puisque ça fait à peu près 800 mètres de long, hein, et plein ouest, ce qui aujourd'hui n'est pas encore acquis d'ailleurs, parce que tout le monde va au foyer, au centre, à l'accueil, à l'espace public du bâtiment. Et donc il fallait absolument trouver aussi de l'intérêt et du bien-être et de l'attractivité aux extrémités. Parce qu'on ne fait pas un parc de 25 hectares pour seulement aller au centre, ça n'a pas de sens. Et puis aussi parce que les territoires sont tout autour et que ce parc est aussi une transition pour les habitants, les populations, pas simplement pour les visiteurs de New York ou de Londres.
Ça fait le pont avec un autre aspect que j'aimerais évoquer maintenant, qui est le rapport entre le parc, la ville, les visiteurs, les voisins, les usagers, tel qu'il est aujourd'hui, 10 ans après la naissance du musée. Sous l'angle du quotidien, d'abord Marie Lavandier, vous l'avez dit, vous le traversez littéralement tous les jours. Comment est-ce que les Lensois, les autres, se sont appropriés le parc au cours du temps ? Quelle place il occupe aujourd'hui dans la ville de Lens ?
Alors, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'évolution, en fait, de l'usage du parc. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, moi j'habite à quelques centaines de mètres, je venais tous les jours et je rencontrais des gens plutôt à l'extérieur de l'une des 11 portes, vous l'avez signalé, hein, c'est énorme la volonté d'ouverture de ce parc sur son environnement. Et sur l'une ou l'autre de ces 11 portes, je croisais des gens qui me disaient « Excusez-moi madame, est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'on a le droit de pénétrer? Est-ce que c'est privé ?» Et aujourd'hui, donc, quand on se promène dans le parc, on rencontre, ou quand on vient travailler, on rencontre des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, alors qui tantôt viennent au musée, elles n'empruntent pas les mêmes chemins d'ailleurs, et puis tantôt, donc ce sont les gens que je rencontre le plus, à vrai dire, sur cette grande circulation sud du parc, des gens qui viennent se promener ou qui traversent le parc d'ailleurs pour eux-mêmes aller au travail dans un autre quartier de la ville. Et parmi ces gens-là, il y en a beaucoup qui ne viennent pas forcément au musée, fût-ce à d'autres moments de leur vie. On a maintenant des usagers du parc. On a un parc qui s'est donc installé, je crois, dans la vie des gens. On a un parc qui s'est aussi installé dans le territoire comme un véritable accroissement du paysage de ce territoire, notamment pour le voisinage.
Très bien. Catherine Mosbach, vous le disiez tout à l'heure, le parc, c'est aussi un enjeu d'urbanisme, c'est une très grande surface au milieu de la ville de Lens. C'était un lieu qui, alors je ne sais pas s'il était complètement fermé, s'il était quasi tabou quand on était au stade de cette friche industrielle. Est-ce qu'il y avait un enjeu autour, voilà, de retrouver une liaison sur ce territoire avec ce parc, entre deux parties de la ville un peu coupées l'une de l'autre peut-être?
Quand je vous dis que cette expérience est unique, et je pense que ce n'est pas trop fort de dire en France et dans le monde, c'est que d'abord c'est une symbiose architecture-paysage, ce qui est trop rare à mon sens, mais ensuite ce parc a ouvert les bras sur les territoires. Et il y a eu après le concours architecture-paysage, il y a eu le concours sur Eura Lens. Du fait de cette hypothèse de symbiose architecture-paysage, le maître d'ouvrage, donc conseillé fortement par l'équipe du Louvre et en particulier une architecte qui était vraiment très inspirée à ce moment-là, Katia Lamy, ils ont demandé que le mandataire du groupement Eura Lens soit un paysagiste, ce qui à l'époque était encore rare. Et de fait, un mandataire paysagiste n'a pas du tout la même approche du territoire qu'un mandataire architecte. Il faut le dire, quelle que soit la qualité des gens. Et donc je disais, il ne suffit pas d'avoir des bons maîtres d'œuvre comme Sana ou une bonne symbiose architecte-paysage. Il faut des maîtres d'ouvrage inspirés, courageux. Et aujourd'hui, toute la dynamique, évidemment, ça prend des années, il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, déjà, un parc, ça prend du temps. Mais alors, le territoire, c'est encore plus. Donc, et je comprends que les gens aient de la patience. Mais ça, c'est incroyable. Et le travail, évidemment, de Michel Desvignes, on a la même formation. Le même professeur, Michel Courageaux, a évidemment nourri cette dimension de relais des cavaliers pour faire la chaîne des parcs. Et ça, c'est extraordinaire. Ça prend des années, mais c'est extraordinaire. C'est un cadeau inouï. Et c'est spécifiquement français, je dois le dire, parce que la dimension d'espace public en France a une valeur qui n'est pas du tout partagée par les autres pays.
Marie Lavandier, vous souhaitiez réagir à cette dimension temporelle. On sent qu'on est dans un espace, mais pas seulement. C'est un espace qui se pense à très long terme, finalement.
Oui, tout à fait. Et puis, je voudrais revenir sur ce que disait Catherine Mosbach, parce qu'effectivement, la force de ce projet du parc-musée, du musée-parc, pour le développement du territoire a été majeur. Effectivement, le Louvre-Lens lui-même, d'ailleurs, a engagé tout un processus de transformation du territoire, y compris d'ailleurs par la mise en place d'agences ou de structures. Donc on parlait de Ralens qui travaille sur le développement urbain de ce territoire très particulier, cette espèce de conurbation continue, percée de friches minières industrielles qui représentent, comme ici, hein, des dizaines et des dizaines d'hectares, un paysage urbain qui ne se comprend que si on comprend justement l'histoire de l'exploitation minière, que si on comprend le trajet même géologique de cette veine de charbon. Et du coup, effectivement, quand, après l'annonce de l'arrivée du Louvre à Lens, Eura Lens se crée, quand est lancé ce grand concours d'aménagement du territoire, Michel Desvignes va avoir une proposition absolument géniale. Et je crois qu'il faut le dire, sans le travail de Catherine et de Sana, elle n'eût pas été, tant ils ont finalement, à travers leur projet, fût-ce dans son apparente modestie, parce qu'en fait, Catherine l'évoque à peine, mais c'est d'une complexité absolument absolument inouï de faire, de laisser faire, de laisser revenir, d'aller dans le sens d'une friche. Et donc, Michel Devigne va avoir cette approche géniale de révéler au territoire, dans la suite de l'expérience du projet du Louvre-Lens, que finalement, ce qui a toujours été vécu comme des moins, comme de la perte, comme des handicaps, en gros, c'est-à-dire ces friches minières, eh bien finalement, que c'est ça qui peut justement faire revivre, révéler quelque part à la fois la beauté, le passé, mais aussi le potentiel urbain, fût-il vert, exceptionnel de ce territoire. Et donc il va en quelque sorte retourner le gant, si vous voulez, et dire mais non, c'est pas des vides, c'est le contraire, c'est ça qui va permettre de reconstruire ce territoire, de lui redonner de la cohérence, et c'est ce qu'on appelle la chaîne des parcs.
Je pose du coup la question à toutes les deux, est-ce que pour vous le parc a dès sa naissance eu cette ambition d'être un outil de reprise, de fierté, de résilience d'un bassin minier dont on sait voilà, qu'il a vécu des moments très douloureux. Est-ce que c'était dès le départ l'ambition du parc ?
Oui, bien sûr, parce que nous étions, du fait de l'emprise et de cette forme musculaire, je dirais, pas facile, enfin, je veux dire, si on s'inscrit dans des parcs traditionnels comme Versailles, ce genre de choses, on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Donc, bien sûr qu'on est dans une relation de travelling et de réconciliation entre l'économique, la culture et le milieu. On est toujours, enfin, encore aujourd'hui malheureusement, on est dans des systèmes d'opposition binaire entre la nature, enfin ce qu'on appelle la nature, je ne parle pas comme ça, ou l'environnement, la culture et l'industrie. Or, l'industrie c'est la culture comme le reste, le milieu, enfin l'homme aussi fait partie de la nature. Donc le parc a été pensé comme un travelling, comme un intermédiaire pour amener à l'articulation entre ces différentes couches. Il n'y a pas une qui est moins valorisée que l'autre. Et les cavaliers qui autrefois, bien sûr, étaient une typologie de division, de cloisonnement, je veux dire, aujourd'hui, ce sont des typologies d'assemblement, d'assemblage. Et oui, c'était de façon, avec cette forme un peu musculaire, je dirais, c'était la seule manière de retourner le système, c'est-à-dire que ce soit un système qui ouvre les bras, qui accueille et qui diffuse. Et surtout, donc le parc était aussi cette manière d'introduire, évidemment que y compris moi, nous n'avons pas la connaissance de l'art, de l'histoire de l'art en international, de toutes les civilisations. Donc c'est un intermédiaire, enfin, c'est une manière d'introduire cette complexité et cette richesse des civilisations. Donc on est dans une relation d'alliance en fait, nouvelle, et on n'a pas le choix. On doit ouvrir nos esprits sur ce type de choses.
Vous l'avez dit, il faut du temps pour rompre avec cette espèce de timidité que vous évoquiez, Marie Lavandier, quand les Lensois, les voisins ont dû se réapproprier cet espace. Ça prend combien de temps, d'après vous, d'avoir un parc pleinement, j'allais dire, rentré dans la coutume, dans les habitudes ? Est-ce qu'au moment de la conception du parc, on se dit ça va prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans ?
Alors, c'est vrai que vous avez dit tout à l'heure que le parc a été effectivement construit en même temps que le musée, c'est vrai. Après, ça, on le connaît, Catherine l'évoquait, hein, on connaît une certaine forme d'injustice, finalement, entre les bâtiments et les espaces verts qui les entourent ou les habitent, d'ailleurs, oui, habitent. Et ces injustices, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, effectivement, généralement, le bâtiment va capter effectivement le gros des crédits. Et puis ensuite, un bâtiment et un parc vivent, évoluent dans des univers temporels complètement différents. Le bâtiment, il est quelque part pratiquement jamais aussi beau qu'à l'ouverture ou un ou deux ans après, parce qu'en général, quand on ouvre, il n'est pas tout à fait terminé, à vrai dire. Le parc, il va se développer, s'installer, il va apprendre à danser, j'aime bien dire, avec le bâtiment, mais aussi avec la végétation et puis ceux qui vont le parcourir. Ce qui me frappe, là, on est dans le salon des mécènes, qui est entièrement entièrement transparent au sein du hall du musée. Hall qui lui-même est transparent. Donc on a le parc en fait sous les yeux pendant qu'on vous parle. Et j'étais très frappée tout à l'heure par ces groupes d'enfants qui arrivaient et qui se détachaient sur les prairies sèches de cette partie du parc et qui finalement venaient eux aussi enrichir, compléter ce paysage. Donc oui, il y a des temporalités différentes. Oui, ça prend du temps. Alors au-delà de ces aspects paysagers, effectivement, l'encouragement de la pratique du parc, elle a été pour moi une évidence dès que je suis arrivée. Moi, je suis arrivée 4 ans après l'ouverture. Honnêtement, la question de la fierté que pouvait représenter ce parc, j'étais pas là au départ, mais en tout cas, dès que je suis arrivée, ça a été une évidence. Qu'il était magnifique, qu'il était aussi une espèce de métonymie, de métaphore de ce que le paysage, de ce que la ville, de ce que la vie des gens ici avait le pouvoir de devenir, était en train de devenir. Donc une image pleine d'espoir de la transformation de ce paysage industriel en un paysage qui est toujours industriel, hein, mais qui se raconte, qui s'habite et qui se partage. D'où, effectivement, tout ce qu'on a fait, parce que ça ne s'est pas fait tout seul. Hein, bien sûr, ça prend du temps, mais ça en prend un tout petit peu moins si on le fait de manière volontariste. Tout ce qu'on a fait pour privilégier l'usage de ce parc par les habitants, et en particulier par qu'en fait, la grande saison estivale, mais aussi des choses toutes simples, utiliser les vélos, par exemple, autoriser les vélos.
On va y venir à l'instant. J'avais quand même une dernière question avant de passer à cette idée du parc comme outil d'une politique culturelle et scientifique. Catherine Mosbach, quand vous voyez le parc aujourd'hui, est-ce qu'il ressemble à ce que vous imaginiez au tout début? Je sais que c'est une question un peu naïve, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Est-ce qu'il ressemble à ce que vous aviez rêvé?
Nos métiers sont délicats parce qu'évidemment, on est très exigeant, on est très ambitieux et on veut porter la chose très loin. Donc bien évidemment, le problème, c'est qu'on a une vision, on a un dessin au sens une vision. Et un parc, c'est vivant, donc c'est comme un enfant, il faut l'accompagner. Et on ne peut pas être sur le terrain tout le temps pour porter cette vision dans l'avenir. Donc bien évidemment, les personnes qui prennent le relais, il y a toujours un décalage de culture, de vision et ce genre de choses. Mais ça, c'est un problème récurrent sur tous les projets. Après, ce qui est un cadeau incroyable, à la fois pour les auteurs, architectes, paysagistes et pour les habitants, c'est que ce parc, on n'en voit jamais la même chose. Et ça, c'est vraiment un cadeau, les gens ne se rendent pas compte. C'est que quelle que soit la saison, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du brouillard, la vision est totalement différente. Et la relation entre architecture et jardin et paysage est totalement différente. Et ça, c'est un cadeau incroyable. C'est-à-dire, chaque fois que je viens, je prends la journée, j'évite de venir quand il fait trop beau, parce que quand le soleil est d'aplomb, tout est découpé, tout est brutal. Il faut venir quand il pleut, quand il y a du brouillard, quand il neige. Et la poésie est... Et enfin, on rêve quoi. Donc évidemment, ce rêve, c'est un cadeau. On ne peut pas imaginer ce rêve. On a des intuitions, mais entre ce qu'on intuite et ce qu'on reçoit, je suis très gâtée. Évidemment, j'étais très malmenée au début, très très malmenée. C'était un champ de boue par les journalistes, par beaucoup de gens. Et là, je considère que je suis très gâtée de cette expérience. Vraiment, quand je dis c'est unique, le mot n'est pas trop fort.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Je voudrais maintenant qu'on se penche sur la place que le parc occupe dans le projet scientifique et culturel du musée. Le parc aurait pu n'être qu'une porte d'entrée, un écrin autour du musée lui-même, si beau soit-il. Mais je crois qu'il a, dès l'origine, été conçu comme un levier d'art, de culture, de pédagogie, de muséographie. Et je crois, Marie Lavandier, que vous souhaitez encore plus insister sur cette dimension aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Mais Catherine l'a évoqué. Le parc, d'abord, fondamentalement, c'est un projet... C'est un projet artistique, c'est une œuvre, c'est de la culture. Pour moi, la question ne se pose pas. Ensuite, ce parc, il est fondamentalement un témoignage traité avec beaucoup de subtilité, sans citationnisme excessif, sans non plus que l'on ait fait le choix de conserver des éléments miniers qui existaient encore, rares, mais qui existaient encore au moment du choix du site. Mais ce parc, il incarne finalement l'histoire, l'avenir aussi, mais l'histoire de ce territoire. C'est un ancien terri, on l'a dit, terril, comme on dit. C'est un terril tabulaire, c'est un terril surélevé par rapport au territoire. Donc on est comme un îlot spontanément. On sent qu'il s'est passé quelque chose, on sent que cette surélévation n'est pas naturelle. On a une partie du projet que j'aime énormément, qui a été elle aussi très mal comprise. Ces murs d'enceinte qui sont constitués de la terre même du terrain qui était excavé pour construire le bâtiment, qui était une terre, du coup on le voit très bien, une terre de remblai, une terre de déchets, et qui sont montés en autant de murs de pisés qui entourent le bâtiment. On a ce traitement très très beau, d'ailleurs on parlait des éléments les plus soignés parmi eux, et ils ne sont pas végétaux, il y a ces parvis de béton, ces cavaliers de béton qui sont d'une qualité, je trouve, absolument magnifique, et de dessin et de réalisation, et qui sont percés par endroits, qui d'anneaux comme dessinés en creux dans les parvis, qui véritablement de cercles évidés, qui évoquent, et ça se sent, je trouve, très puissamment, le fait que ce parc, il s'étire évidemment horizontalement, hein, il se réfléchit dans ce bâtiment tout horizontal, mais il est aussi dans sa dimension verticale d'une puissance absolument folle. Cette surélévation, le puits qui a été conservé, le puits de mine, est traité comme une fleur de verdure d'où émerge un bosquet d'arbres. Et donc on sent, je trouve, sur ce territoire, et les gens le sentent au fur et à mesure qu'ils apprennent à le fréquenter, on sent cette tension entre l'horizontalité et la verticalité qui, je trouve, est très propre à ces territoires miniers. Le plat pays, comme on dit, oui, mais enfin, ici, sous nos pieds, on creusait, on exploitait à 1 kilomètre de profondeur.
Le profond pays. Concrètement, vous l'avez dit, il y a eu une appropriation quasi naturelle au cours du temps, mais elle a aussi été accompagnée au rythme de grands événements. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur certains projets emblématiques? On va évidemment parler de parc en fête, mais il ne faut pas que ça écrase tout. Qu'est-ce que vous y avez fait dans ce parc?
Qu'est-ce qu'on y a fait? D'abord, on a essayé d'en provoquer une fréquentation plus régulière, je vous le disais, en autorisant notamment les vélos, en autorisant aussi un moment qui a été pour moi très très emblématique, la route du Louvre, qui avait été créée ici pour le site et qui, une fois le musée ouvert, avait été tenue à l'écart. En fait, un grand marathon qui avait été créé, l'île Lens, pour célébrer l'arrivée du musée du Louvre ici sur cette terre de charbon. Dès que les organisateurs sont venus me voir pour savoir s'ils pourraient imaginer, rêver, même une seule année, me disaient-ils, les coquins, même une seule année que la course parte ou arrive ici sur le terrain. Ça a été quelque chose à quoi j'ai dit oui. Ça voulait dire, je ne sais pas si je l'avais totalement mesuré d'ailleurs, ça voulait dire 25 000 visiteurs dans la même journée, non seulement dans le musée, mais surtout dans le parc. Moi, j'avais très peur pour le parc, j'ai hésité. Et puis j'ai dit, écoutez, montez le dossier, travaillez. Prouvez-moi que vous n'allez pas démolir le parc et on peut le faire. Et ça a été des moments extraordinaires. Donc du coup, le fait de casser un peu les codes, d'entrechoquer les mondes, vous savez que je suis très attachée à toute la dimension corporelle, hein, de l'acte culturel. Ça a été, je pense, très très déterminant pour les gens qui se sont dit, ah ben tiens, il y a la route du Louvre, puis là on touche un autre public. Ça a été aussi des gestes très symboliques. Par exemple, le réservoir, donc qui est un plan d'eau qui a pour usage effectivement d'être un réservoir en cas d'incendie, rectangulaire, dessiné de manière très pure. Il était entouré, quand je suis arrivée, et Catherine n'y est pour rien, d'un grillage à moutons. Alors ce grillage à moutons, il empêchait l'accès au bassin, mais alors surtout ce qui m'a frappé, c'est que le jour où j'ai enfin réussi à le faire enlever, vous savez, parfois même pour la directrice, c'est long d'obtenir des choses aussi simples que celles-là, le jour où on a enlevé ce grillage à moutons, donc vous voyez ce que c'est, il n'y a pas plus transparent, c'est des mailles de 20 sur 20, avec des gros piliers de bois à intervalles réguliers. Les gens m'ont dit, mais il y a quelque chose de nouveau, c'est nouveau ce bassin, comme quoi d'interdire les choses, fût-ce de manière transparente visuellement, en fait ça fait que les gens ne le réalisent plus. Donc rouvrir évidemment ce très joli endroit du parc à la vision, à la visite, et puis effectivement dès le premier été, de manière un peu informelle, mais se dire, les habitants, moi j'ai pris conscience de ça dès que je suis arrivée, les habitants ils partent pas en vacances, ils ont cet espace extraordinaire de plus de 20 hectares à leur porte, et ne viennent pas en profiter, c'est pas possible. Donc dès le premier été, des transats, des activités physiques, des activités bien-être qui ont permis de faire venir les gens. L'activité potagère aussi dans le parc, avec ces potagers qui étaient donc mis en place par les jardiniers du musée et dont on me disait c'est vraiment très agaçant, les gens viennent voler les choses. Et les gens viennent voler les potimarrons, je me rappelle. Alors apparemment, il y avait eu un épisode traumatique où on voyait des visiteurs, je les appelle des visiteurs. Pour moi, ce sont même des sortes d'invités, mais en vérité, c'était aussi des voleurs. En tout cas, ils étaient vécus comme tels, qui enjambaient les fameux murs de pisée et qui pénétraient dans le parc et qui volaient des potimarrons et qui repartaient chargés de leur butin. Et moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. C'est une espèce de parabole de justement ce qu'on devait faire. Donc, on a multiplié les potagers. Il y en avait d'ailleurs dans le projet initial de Catherine, avec l'idée que les jardiniers puissent autour d'eux partager la joie d'avoir un parc comme un reflet de la joie des habitants du bassin minier, presque tous, d'avoir un jardin dont finalement aujourd'hui, ils ont oublié l'usage.
J'en retiens qu'on peut donc venir piquer des potimarrons dans le parc du Louvre-Lens. On a souvent dit du musée qu'il est un musée d'art et d'essai. Est-ce que vous avez voulu faire du parc un parc d'art et d'essai ?
Oui, moi j'ai beaucoup de mal à séparer le parc du musée. On en a déjà parlé. Le musée lui-même se pense comme un paysage. J'ai trouvé d'ailleurs tout récemment des photographies qui m'ont beaucoup amusée de Sejima, une des architectes de Sana, qui disposait devant les murs en aluminium anodisé des pots avec des graminées pour vérifier comment jouait le reflet dans cette paroi du musée. Donc d'emblée, vraiment, la relation entre les deux a été pensée. Moi, je croyais que tout ça était l'affaire aussi du développement des choses, de la force poétique de la nature, de notre regard. Mais les choses ont été pensées très très vite. À l'intérieur du musée, cette galerie du temps se présente aussi véritablement, fondamentalement, comme un paysage. Donc cette dimension, pour moi, artistique, intégrée entre le bâtiment, le paysage, l'histoire du site aussi, la ville, on voit le stade Bollaert d'où je suis qui dialogue avec le pavillon de verre, tout ça est relativement évident. En revanche, je dirais que la dimension art et essai, et du parc et du musée, elle est peut-être plutôt sur la relation aux visiteurs, la relation aux habitants, la relation, je vous le disais, à la sensibilité, au corps aussi de nos visiteurs qui viennent s'inscrire dans ce paysage. Cette dimension d'arrêt d'essai, elle est peut-être plutôt sur un engagement, je dirais, social très très fort du musée envers son public, mais qui ne se pense jamais séparément de ce qu'il offre, l'art, la beauté, la culture, comme des moyens de vivre mieux, y compris quand on est dans des territoires en cours de transformation, partant parfois d'énormes difficultés.
Très bien, c'est d'ailleurs pour ça, j'imagine, qu'il y a aussi beaucoup d'opérations de médiation qui se font, évidemment, dans le musée, mais aussi dans le parc, à l'occasion de Parc en Fête, mais pas seulement.
Oui, tout à fait. Il y a même d'ailleurs un de nos jardiniers, notre jardinière, puisqu'il n'y a qu'une femme dans cette équipe de 4 personnes, qui a été recrutée sur un profil double, jardinage et animation. Et effectivement, ça c'est quelque chose de très très important que de pouvoir communiquer autour du parc, mais aussi faire partager ce parc, je vous le disais, y compris à la fois pour ce qui concerne la compréhension par les habitants de leur propre histoire. Vous avez parlé de fierté, vous avez raison. Il s'agissait de ne pas imaginer que l'avenir pouvait se dessiner sans une relation apaisée, une relation réconcilié à ce passé minier qui a parfois été honni après la fermeture des mines. Donc le parc qui sert, nous le mettons en œuvre largement pour ça, mais aussi plus largement, je l'évoquais, comme un outil puissant de simplement, évidemment d'ailleurs au sens le premier, de révélation de la vie, de la possibilité de la vie, de la possibilité de la beauté, de la possibilité aussi, c'est important sur notre territoire, justement, de la santé, de la possibilité d'une alimentation peut-être différente, de la possibilité d'un rapport au monde différent. Et tout l'art qui a été insufflé dans ce bâtiment, et je ne parle pas seulement des œuvres du Louvre, mais du bâtiment lui-même, dans ce parc, sont mobilisés pour ce faire.
J'aimerais maintenant qu'on évoque ce qui a l'air d'être une évidence. Le parc est un être vivant. Je vais quand même donner quelques chiffres parce que c'est toujours amusant. Le parc, c'est 6600 arbres, 26000 arbustes, 7000 plantes vivaces, un nombre relativement indéfini d'oiseaux et d'insectes, des lapins, des souris, des mulots, des crapauds calamites qui se cachent au milieu des poissons du bassin. C'est un espace vivant. Vous aviez souhaité en faire un lieu exemplaire en matière, je crois, de gestion raisonnée et de sensibilisation à l'écologie dès le début.
Oui, tout à fait. C'est des choses qui précédaient largement mon arrivée au musée du Louvre-Lens, d'ailleurs, et qui, je pense, figuraient en soi, en quelque sorte, dans le projet de Catherine Mosbach. Hein, justement, on l'évoquait, d'abord, cette manière de s'appuyer sur ce qui était. Manière de s'inspirer de ce qui était sont déjà en soi, je trouve, des démarches fondamentalement écologiques. Après, effectivement, quand on connaît le travail de Catherine Mosbach, on n'est jamais dans l'idée d'implanter un effet de nature, un effet de verdure, un effet de massif qui serait complètement déconnecté de la possibilité écologique initiale du site. Elle en parlera mieux que moi. Toutes les variétés, notamment d'arbustes qui ont été implantées, sont très très largement inspirées de ce qui pousse spontanément ici. Donc c'était quelque chose d'assez évident que, je dois dire, l'équipe avait déjà largement compris. J'ai un petit peu accentué encore la chose ils en ont été très surpris d'ailleurs, à certains égards encore plus ultra que notamment pour ce qui concerne un certain nombre d'invasifs, je pense à des liserons que je ne voulais absolument pas qu'on puisse traiter de manière chimique. Donc oui, tout ça est une évidence. On est aussi dans un dispositif, Catherine l'évoquait en parlant du traitement des sols, dans un dispositif qui est de l'ordre du réparatif aussi, en quelque sorte, et il n'était absolument pas question d'aller contre ça. Ça fait de ce parc, moi j'y pensais en venant ce matin, ça fait de ce parc et de ce projet ici du Louvre-Lens, je trouve effectivement un projet qui a été considérablement en avance sur son temps. Et on le voit aujourd'hui dans la manière dont on le fait vivre, dont il vit. On le voit aussi effectivement dans la manière dont il réagit à l'évolution climatique, qui est très très nette. Hein, quand on a la chance de pouvoir s'occuper d'un espace vert comme celui-ci, je peux vous dire que l'évolution climatique, même sur 6 ans, on la mesure tout le temps. Eh bien, ce parc, et pour moi c'est aussi une magnifique métaphore de ce territoire, ce parc résiste.
Catherine Mosbach, comment vous réagissez à ça? On a l'impression que jamais l'idée n'a été de forcer le territoire à faire ce qu'il ne voulait pas faire, en fait. C'était l'idée d'accompagner son développement naturel, c'est ça?
Oui, au contraire. C'est-à-dire, pour moi, c'était essentiel que la dimension culturelle, c'est-à-dire l'enjeu culturel, ne supplante pas l'enjeu du milieu. Milieu, ça veut dire ce qui existe, quel que soit ce qui existe. Le milieu en tant qu'ouvert, large. Et l'enjeu du bassin minier. Pour moi, c'était essentiel que ces trois strates vivent ensemble, évoluent ensemble et s'harmonisent ensemble. Donc tout ce qui est résurgence spontanée, évidemment, est bienvenu. Mais après, ça demande un regard sélectif, un regard, tout simplement. Et ça, c'est pas évident, surtout partager un regard, puisque bien évidemment, très souvent, il a été question au début. Maintenant, je ne sais pas, ce parc est abandonné, il n'est pas entretenu. Vous savez, tout cet esprit un peu formaté occidental qui dit attention, si c'est pas tondu, râle et pâquerette, si c'est pas une pelouse parfaite, c'est sale. Donc cette dimension, elle est aussi obligée d'évoluer au niveau général dans nos civilisations, parce que tout simplement nous sommes confrontés à cette dimension. Mais oui, c'était essentiel que cette notion de travailler avec un sol pauvre, c'est le sol qui est le plus riche en biodiversité. Et dans un parc urbain, on veut que tout soit parfait, clean, propre. Et donc c'est une contradiction. Mais ça prend du temps de faire évoluer les mentalités et ce parc aide à cela.
vous avez eu l'impression, rétrospectivement, d'avoir de l'avance sur c'est effectivement quelque chose qu'on entend quand même maintenant de plus en plus dans le débat public, cette idée de laisser la nature vivre un peu sa vie, d'arrêter de tondre, comme vous le disiez, toutes les trois minutes. C'était vraiment pilote à l'époque.
Je ne dirais pas ça, parce qu'on a du mal à avoir du propre recul sur sa propre sensibilité. Ce qui est très important pour moi, c'est de ne pas opposer les disciplines. C'est-à-dire, la nature sans le dessin, c'est comme la nature sans l'humain. Je veux dire, il faut les deux. C'est-à-dire, il faut le regard, il faut la traduction. Tout ce qui est fait ici n'est pas juste de la fantaisie esthétique, c'est absolument tout ce qui est dessiné à des raisons techniques. On ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Donc, c'est une prestation d'expert, en fait. Donc, après que mon œil ou ma sensibilité soit déformée, parce que ma discipline initiale, c'est la biologie, la chimie, la physique, sans doute. Ensuite, je suis tombée dans les sciences humaines avec des critiques d'art et ce genre de choses. Donc, oui, sans doute, mon regard est déformé, mais... Le paysagiste, l'architecte paysagiste a ce luxe d'être dans l'interdisciplinarité et il doit mettre à profit cette dimension pour le bien commun et le bien public. C'est essentiel et rétrécir les champs de vision sur un ou sur l'autre, c'est un non-sens. Et puis on a ce devoir par rapport aux civilisations.
Marie Lavandier, je reviens sur un point. Vous avez déjà évoqué les jardiniers du musée. Ce n'est pas forcément un métier auquel on pense tout de suite quand on pense musée. On aurait pu imaginer qu'une structure comme le Louvre-Lens allait sous-traiter des missions d'entretien. Or, il a toujours intégré des jardiniers, je crois, dans le projet. Pourquoi et comment est-ce qu'il participe à l'échange avec les visiteurs, les promeneurs?
Alors, c'est vrai que ça a été toujours une évidence, évidence que j'ai accentuée en arrivant en doublant l'équipe qui demeure modeste de jardiniers du musée, donc qui est passée alors de 2 à 4 personnes. Ça a été une évidence d'avoir une équipe en interne parce qu'effectivement, l'accompagnement, je dirais, plus que le traitement, on ne traite pas, on ne cherche pas à maîtriser à toute force, mais on accompagne ce parc. Il requérait des approches assez subtiles qui échappent largement aux merveilleuses règles qui régissent les marchés publics en la matière, où il faut préciser, vous tondrez à telle fréquence, tel endroit, tant de mètres carrés, etc., etc., tant d'hectares, tant d'arbres. Bon, tout ça n'avait aucun sens, effectivement, dans, Catherine vient de l'évoquer, la démarche qui est une démarche un petit peu de haute couture qui a été celle évidemment de la création de ce parc, elle vient de le dire très bien, mais aussi celle de l'accompagnement de ce parc à croître. Et pour moi, encore une fois, le parc, il n'est pas dissociable de l'action du musée. Il la raconte. Il raconte aussi ce rapport très, très respectueux, très interactif, très partagé aussi à ce territoire, à son passé, à son avenir. Et là, vous le comprenez bien, je vous parle de choses qui deviennent aussi humaines. C'est-à-dire qu'avoir des hommes et des femmes dans le parc qui, tous les jours, allaient non seulement agir, fût-ce par laisser faire, écoute, observation, agir cette évolution du parc, mais aussi qui allaient pouvoir la partager, la raconter, y impliquer les visiteurs. Ça, c'était quelque chose qui était évident. Et effectivement, on est arrivé aujourd'hui à un niveau où les jardiniers participent avec des médiateurs à des carrés potagers, à des cafés potagers, pardon, pas des carrés potagers, ils sont rectangulaires chez nous, participent à des cafés potagers, expliquent, partagent avec les visiteurs et au quotidien, indépendamment d'ailleurs de toute programmation, de tout rendez-vous, jardiniers qui savent, c'est très important pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe ici. Je crois que c'est quelque chose qui engage aujourd'hui plus de compréhension de la part des visiteurs et je dois dire un nombre de compliments sur le parc qui va croissant. Effectivement, il y a encore 5 ou 6 années, y compris des élus à la sensibilité écologiste reconnue, ne comprenaient absolument pas ce projet. Ils sont les premiers maintenant à me faire des compliments sur ce qui est en train d'advenir. J'aimerais revenir aussi sur un point. J'ai vu que Catherine souriais quand vous avez évoqué les 7000 vivaces. Alors, je pense que ce sont 7000 vivaces qui ont été plantées. Parce que l'avantage de la formule retenue, justement, pour ce parc, c'est que des vivaces, je ne peux même pas imaginer combien il peut y en avoir. À mon avis, on est de l'ordre du billion ou les vivaces du parc, à force, justement, de respecter ce qui advient, de respecter ce qui était déjà là, de passer par exemple, ça a été un travail très important de rétablissement d'un sous-bois au niveau du bois pionnier, d'accepter le moment où il va y avoir une invasion de ronces, d'orties, en attendant que les choses finalement trouvent leur propre équilibre. Et bien tout ça permet effectivement un niveau de, je dirais pas de plantation, parce qu'on n'a pas planté, mais un niveau de présence végétale totalement exceptionnel dans le parc, fût-ce en ne plantant que, si j'ose dire, 7000 vivaces, c'est rien.
D'accord. Je voudrais revenir sur un moment particulier qui est la récente pandémie. Est-ce que dans le rapport des habitants avec le parc, ça a joué dans son appropriation? Le parc a été fermé pendant un moment, hein, au moment du premier confinement, mais finalement, assez vite et pendant des mois, il est resté un des rares espaces où on pouvait aller à peu près librement se promener. Est-ce que cette étape-là a quand même servi de cliquet dans le rapport des habitants à leur parc et à cette nature qui se déploie sous leurs yeux?
Oui, sans doute d'une certaine manière. Ça a permis qu'effectivement, je pense, le voisinage ressentent un manque. Moi, j'avais la chance de venir tous les jours dans le parc pour aller travailler. J'étais souvent alpaguée par les très rares personnes qui étaient à l'extérieur en sortant, qui me disaient « Mais quand est-ce que le parc va rouvrir ?» Donc ça, c'est vrai que je pense qu'il y a eu une prise de conscience, et puis ensuite, il y a eu effectivement un usage, quand on a pu rouvrir, un usage du parc par les visiteurs, certainement accéléré. C'est devenu l'endroit où on pouvait prendre l'air, l'endroit où on pouvait marcher, l'endroit où on pouvait promener son chien de manière peut-être encore plus nette. Je dois dire que la pandémie, elle a eu aussi un effet, je pense, sur nous, sur l'équipe du musée. D'abord de voir le musée vide, sans visiteurs, c'était évidemment un crève-cœur, et on comprenait à quel point les gens, en fait, sont au cœur de notre activité. Mais je dois dire, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé ressentir aussi fortement dans le parc. Moi qui suis très sensible à sa dimension écologique, à sa dimension historique, très sensible aussi évidemment à tout ce qu'il peut apporter, mais j'avais pas réalisé à quel point ce parc, sans fréquentation, sans ses voisins, sans ses mouvements incessants, sans personne pour l'admirer, ce serait triste à mourir.
Le Louvre lance du rêve à la réalité.
Je voudrais revenir sur un dernier point sur le parc en tant que jardin, parce que le parc, il se trouve qu'il a été labellisé l'année dernière jardin remarquable. Est-ce que vous souhaitez en dire un mot? Comment est-ce que vous recevez cette ce label, cette, je ne sais pas si on peut parler de récompense, en tout cas cette reconnaissance? Catherine Mosbach, peut-être?
Je dirais qu'il est remarquable dans le sens où il inspire les personnes. Et moi, je me suis énormément réjouie, je crois que c'était lié à la pandémie, de l'accueil des artistes au niveau international, où il y a eu des installations l'an dernier. C'est sa vocation d'inspirer les gens, c'est sa vocation de nourrir l'imaginaire. Que ce soit l'imaginaire quotidien, que ce soit l'imaginaire d'artistes, que ce soit l'imaginaire des architectes. Et ça, c'est, je pense que c'est aussi son avenir. Curieusement, il a vraiment une très grosse résonance en international, presque plus en France, en ce qui concerne l'imaginaire. Et j'étais vraiment très très heureuse de voir l'appropriation très inattendue des artistes qu'on a fait l'an dernier, donc dans le parc. Des choses très délicates, des choses qu'on ne peut même pas imaginer d'ailleurs. Et qu'un parc ait ce pouvoir, c'est très bien. Je dirais que notre travail est accompli.
Un pouvoir d'attraction et d'inspiration, si je résume.
Oui, d'ouvrir l'imaginaire des gens, que ce soit les tout-petits, J'ai adoré. Il y a des ateliers pour les petits. Et je ne sais pas si j'ai vu des photos, mais ils ont fait dessiner les petits sur les parvis. Et les petits travaillaient avec le dessin du parvis. Le comportement des enfants, vous savez, est très révélateur. Des tout petits, ils n'ont pas le filtre de la culture, de rien du tout. Et voir les enfants jouer avec les dessins du parc. Donc là, on ne parle pas d'artiste, on parle de la petite enfance. C'est magnifique.
C'est effectivement remarquable. Marie Lavandier, de votre côté, comment est-ce que vous avez reçu cette labellisation ?
Ben, avec beaucoup de fierté, évidemment, pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont collaboré à créer ce parc, à le dessiner, et qui collaborent au quotidien à le faire vivre, encore une fois, visiteurs et promeneurs compris. Voilà. Qu'effectivement, ici... Il se passe des choses remarquables dans cette espèce de superposition, de palimpseste, pourrions-nous dire, de ce que devient ce parc. Je l'évoquais depuis les profondeurs carbonifères du terrain jusqu'au parc dessiné par Catherine, en passant effectivement par tout ce qui apporte au quotidien chaque promeneur, chaque visiteur, chaque regard, mais aussi, Catherine a raison de le rappeler, les artistes qui sont amenés à y travailler, cette espèce de compréhension, de dessin augmenté de la vie, du passé, de ce territoire. Tout ça fait que je vous avoue que cette récompense, cette distinction en tout cas, je l'ai reçue comme quelque chose d'honorant. Moi, je suis toujours très contente que dans ce territoire, on reconnaisse ce qui se fait, parce que vous l'avez évoqué, il y a une question de fierté ici qui a été très blessée et qui est très importante. Mais pour le reste, moi, je m'y reconnais une part très, très modeste, donc je peux le dire. Je trouve que tout ce qui se passe dans ce parc est remarquable. Et tous ceux qui y viennent, tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui le font, tous ceux qui ont travaillé aussi ici dans la mine, il y avait 1000 personnes qui travaillaient. Mais tout ça, c'est très remarquable. Du coup, ce label, pour moi, il était très logique. C'est pour ça que je l'ai demandé. J'étais sûre qu'on l'aurait.
Très bien. On a parlé du passé du lieu. On a parlé de son présent. On va quand même parler un petit peu de son avenir. Catherine Mosbach, on a bien compris qu'un parc comme celui-ci, il prend sa mesure au fil du temps. J'ai une question presque naïve. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour les temps qui viennent à ce parc ? Comment est-ce que vous aimeriez le voir évoluer ?
Que les arbres poussent très très vite. On a eu des pertes, on avait des sujets, ils étaient ce qu'ils étaient. Maintenant, il y a eu des pertes pendant le chantier. Ensuite, il y a les aléas, le sol est pauvre. Enfin, donc tout ce qui a été amené n'a pas forcément survécu. Donc évidemment, Marie dit que c'est très bien de voir le stade. Pour moi, c'est pas très bien. Parce qu'on perd un peu la dimension de clairière, de lumière, de trous de lumière dans au milieu de lisière. C'est sa dimension poétique la plus importante, évidemment, avec le bâtiment, puisque c'est tout ça qui vit ensemble. Donc, je dirais je suis impatiente de vieillir pour le voir, et je ne suis pas sûre de le voir, malheureusement. Mais c'est un cadeau pour l'avenir, et j'espère qu'ils y arriveront, les arbres, à grandir. Pardon, c'est un peu pragmatique, mais, mais c'est la force de ce parc, c'est le végétal. Et sa dimension poétique. Donc, après, bien sûr, tout est fragile, comme tout le vivant est fragile, peut-être plus aujourd'hui que hier. Et qu'évidemment, j'espère que ce qui a été initié pourra tenir dans la durée. C'est pas gagné, vous savez. On pense toujours que les choses sont acquises, mais rien n'est acquis. Mmh. Et encore moins le vivant que le dur, je dirais. Mmh. Et du coup, cette pluralité, ce potentiel... Et pardon Marie, c'est très important, les personnes, le pilote dans l'avion, parce que le pilote change et l'avion change de route, vous le savez. Donc vous dites, vous êtes modeste, mais le pilote est essentiel, enfin, dans un avion. Et donc, on n'a pas la main sur tout ça, que ce soit les architectes ou les paysagistes. Et donc, qu'est-ce que je lui souhaite, de traverser les âges et de continuer à inspirer, et c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter aux populations.
Marie Lavandier, il a été fait beaucoup dans ce parc, par et pour lui. Est-ce que vous avez encore quelque chose dans votre sac à malice pour les années qui viennent? Est-ce que vous voyez d'autres grands projets emblématiques que vous voyez déjà se dessiner?
Oui, bien sûr, toujours. Ce sont des choses qui aujourd'hui ressortent, résultent de l'usage du parc. Ce sont des choses d'ailleurs qui parfois étaient déjà présentes dans le projet initial et qui ont disparu, qui seraient peut-être des capacités d'abri dans le parc, des éléments peut-être bâtis pour le coup. Alors je sais qu'au début il y avait un projet au niveau du concours qui permettait de relier par une sorte de passerelle couverte ondoyante le pavillon de verre au hall pour privilégier une circulation en boucle par exemple. Donc cette question des abris, effectivement, on a très envie et très besoin d'y travailler. La dimension ludique dans le parc, moi je trouve qu'elle est très présente. Il faut sans doute qu'on l'encourage un petit peu plus, qu'on en encourage la lisibilité. Mais j'aime beaucoup les projets qui avaient été dessinés par Catherine, notamment la plaine ludique qui est habitée de petites collines herbeuses, une espèce d'incitation à sauter de l'une à l'autre pour les enfants, ou cet endroit qui évoque un petit peu les parcs à bois des mines, constellés de planches de béton posé à même le sol et disposé selon un schéma solaire en quelque sorte. Donc ce sont des choses qui à mon avis nécessitent d'être accentuées, d'être augmentées. Mais ce qui me paraît très important aussi, c'est on l'a dit, c'est l'art d'une part dans le parc. Ça, c'est quelque chose, notamment avec la sculpture de Bernard Venet qui est ici depuis un an, que nous poursuivons. La sculpture aussi de Françoise Petrovitch sur laquelle on tombe au détour d'un de ces petits sentiers mystérieux qui maintenant anime le bois pionnier. Et puis sinon, il y a quelque chose qui me semble très important aussi dans le parc, c'est que il s'intègre d'autant mieux dans la ville que finalement, petit à petit, il commence à faire des petits, il commence à déborder sur l'espace urbain. Et cette relation, je dirais, d'ancrage dans le territoire, qui a été pensée dès le départ, notamment avec ses 11 entrées, mais elle va s'accentuant. Donc aujourd'hui, il y a des projets juste à côté, le jardin de la maison du projet. Il y a des projets aussi du côté de Liévin, avec un projet de jardin square. Il y a des projets, finalement, moi, c'est dans cet ancrage accentué dans le territoire, dans ce débordement aussi presque, si j'ose dire, que je pense que le parc va gagner encore profondément dans les années à venir et va démontrer qu'effectivement, un musée dans un territoire ou un parc-musée, ça change pas mal de choses.
On arrive au terme de cette émission. Il y a quand même une dernière question que j'aimerais vous poser à toutes les deux. C'est celle de votre saison préférée dans le parc. Quel est le moment de l'année où vous préférez vous y promener?
C'est un piège. Quand il pleut, quand il y a du brouillard, il n'y a pas de saison préférée. Elles sont toutes très révélatrices et elles changent chaque année. Mais oui. Il ne faut pas venir quand il y a le soleil vertical. C'est trop brutal. Tout est dans la transition dans ce projet. Donc il faut s'ouvrir à la transition.
Il y a une sorte de douceur presque dans le temps,
et
dans la lumière.
Et à la dilution, oui. C'est un travelling à travers tellement de temporalités. Donc il faut rester ouvert. Et quand les choses sont trop fixes, on n'est vraiment pas devant un tableau idéal. Ça n'existe pas. La vision idyllique ici, elle est permanente, elle est en transformation continue, donc il faut rester ouvert à l'imprévu.
Et vous, Marie Lavandier?
Je vais faire une réponse qui ressemble à celle de Catherine. D'abord, demander quelle saison on préfère quand on a la chance de vivre dans un espace comme celui-là. C'est comme demander à choisir entre nos enfants. C'est pas une question à laquelle on peut répondre. Surtout qu'effectivement, moi, je pensais en écoutant Catherine que cette galerie du temps qui est à l'intérieur du musée, et qui évoque justement ce temps de l'art, ce temps de l'homme, ce temps du pouvoir, ce temps de, de, de l'amour qu'incarnent donc toutes ces œuvres qui s'étalent sur presque 5000 ans, ce temps qui est aussi réverbéré, répercuté, dissous aussi, vous le disiez, augmenté, rendu vibratile par les parois d'aluminium de la Galerie du Temps. Mais en fait, on le retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire ce parc... comme tous les parcs, allez-vous me dire, mais celui-là, de façon peut-être plus assumée qu'ailleurs, c'est un parc du temps. Le temps météorologique, Catherine l'a dit, on ne peut pas choisir une saison, mais il faut choisir les jours où il pleut. Bon, ben, on a la chance d'être dans une région où il peut pleuvoir à peu près toute l'année, pas tous les jours, pas toutes les heures. Mais effectivement, ce temps de la météo, ces ciels magnifiques, le fait que le terrain lui-même est bombé, hein, et encore une fois, surplombe un petit peu le territoire. Du coup, on voit un ciel absolument immense jusqu'à l'horizon. Et puis ce temps, effectivement, ce temps des saisons, ce temps de l'évolution climatique aussi, quelle qu'elle soit, sont les grands invités de ce parc. Alors non, on ne peut pas choisir, on peut juste choisir d'y venir, d'y vivre. Je pense aux habitants, aux visiteurs, à ceux qui y travaillent aussi, d'y vivre le plus souvent possible dans l'année.
Merci beaucoup à toutes les deux, Catherine Mosbach et Marie Lavandier. Merci d'avoir participé à ce nouveau numéro du podcast Le Louvre-Lens, du rêve à la réalité, que le musée produit à l'occasion de son 10e anniversaire. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode consacré au parc du Louvre-Lens. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter l'intégralité de toutes les autres émissions sur Internet ou en les retrouvant sur votre plateforme préférée. Excellente journée à tous.
Le Louvre-Lens, du rêve à la réalité.